FIT. Il nous rejoint de Paris. Et Henri-Désiré Nzouzi, analyste politique, consultant en relations internationales, basé à Bruxelles. Il est arrivé au pouvoir en pleine guerre froide quand Jimmy Carter et Léonid Brejnev se partageaient le monde. Denis Sassou-Nguesso vient donc de mettre le cap sur le club des dirigeants qui cumule plus de 40 ans au pouvoir après sa réélection écrasante à la tête du Congo-Brazzaville cette semaine. Avant d'aller plus loin dans la discussion, Henri-Désiré Nzouzi, pouvez-vous brièvement nous retracer le parcours de cet homme récemment appelé l'empereur par ses homologues ivoiriens et guinéens et comment expliquer ses longues années au pouvoir ?
Alors, s'il fallait parler assez rapidement de Denis Sassou-Nguesso, on peut, disons, découper sa vie en 5-6 périodes. La première qui va de 1969, année au cours de laquelle il est cofondateur du Parti congolais du travail. Cette période va se prolonger jusqu'en 1979, après avoir travaillé avec ses deux prédécesseurs, on rappelle, Marien Ngouabi et Joachim Yombi Opango. En 1979, il prend les rênes du pouvoir, il est seul au pouvoir jusqu'en 92. Lorsqu'il initie le multipartisme, il est balayé par cette vague démocratique qui souffle sur le continent africain et c'est la traversée du désert jusqu'en 1997, année au cours de laquelle il s'engage dans la bataille présidentielle face à Pascal Lissouba. La suite est connue. Intervention militaire de l'Angola. Denis Sassou-Nguesso est reconnu par la communauté internationale et en 2015, il décide d'initier une révision constitutionnelle qui lui permet au fond de faire sauter le verrou de la limitation de mandat, 2016 élection qu'il remporte et 2021, vous venez de le rappeler, avec un score très important. Voilà en quelques années, en quelques dates, le parcours de Denis Sassou-Nguesso.
Ses proches sont admiratifs de sa longévité, alors que ses adversaires le disent fatigué et bon pour la retraite. Il s'agit de sa quatrième réélection depuis 2002, vous venez de le dire, Henri. Il est âgé de 77 ans. Pourra-t-il encore briguer un nouveau mandat en 2026, Hervé Miabé? Évidemment, tout à l'heure, Henri a mentionné la révision de la Constitution.
Bon, d'abord, Jacques, merci encore une fois de m'avoir donné la possibilité d'échanger encore avec vous pour l'émission et je voudrais aussi profiter ce moment avant de répondre à votre question pour m'incliner sur la mémoire d'un frère, d'un ami, d'un partenaire qui vient de mourir dans des conditions mystérieuses. Bon, Monsieur Sassou-Nguesso, je voudrais aussi relever un petit point que Henri a mentionné. Monsieur Sassou-Nguesso n'a jamais initié le mouvement en 92 du processus démocratique au Congo. Il a été forcé justement par les syndicats et par les acteurs politiques comme Bernard Kolela. Et c'est ce qui a fait qu'il était forcé pour arriver à ce point et donc il était obligé d'accepter le processus démocratique en 92 au Congo. Ceci dit, pour dire répondre d'abord à votre question, Jacques, ben, c'est une, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour nous on considère que cette élection est une mascarade. Monsieur Sassou-Nguesso, qui est un dictateur, les dictateurs n'organisent pas des élections pour les perdre. Donc je pense simplement pour dire que on ne peut pas nous penser qu'on doit encore voir un Sassou-Nguesso qui va représenter un autre mandat, parce que 88%, alors que la dernière élection il avait 8%, c'est une aberration totale. Donc nous savons que c'est un dictateur. Et vous savez, les dictateurs n'organisent pas des élections pour les perdre. Ils s'organisent à ce qu'ils meurent au pouvoir et qu'ils passent le pouvoir à leur progéniture. Voilà donc ce que je peux vous dire pour répondre à votre question.
Bon, des accusations que certainement les proches du président vont rejeter. Et quelque part, il nous faut quand même mentionner ce que, par exemple, le président de la commission électorale, lui, il dit, hein, pour vous, une mascarade et pour les opposants, une mascarade. Mais le président de la commission électorale a dit pouvoir certifier que les résultats qui ont été proclamés sont l'expression des suffrages réellement exprimés par les électeurs. Donc, quelque part, malheureusement, on n'a pas pu avoir quelqu'un qui pourrait représenter le gouvernement ou bien le parti au pouvoir, donc quelqu'un qui allait pouvoir prendre part à cette émission aujourd'hui. Donc quelque part, il nous faudra faire l'avocat du diable. Mais permettez-moi maintenant de poser cette question à notre autre invité. La participation au scrutin de dimanche s'est établie à près de 68%. Andrea Gombe, quelle lecture faites-vous du choix des Congolais de reconduire Sassou Nguesso à la tête du pays? Pourquoi n'ont-ils pas été convaincus par ces challengers?
Non, déjà, sans repartir sur ce qu'a dit M. Téléma, il faut encore attendre la certification des résultats, notamment les résultats définitifs et leur publication bureau par bureau dans le journal officiel. Si cette publication se fait, alors là, on pourra avoir des éléments vraiment solides pour dire que le vote exprimé et aller détailler. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, de la démarche, c'est que le Congo reste un État fracturé entre ce que les chercheurs et les analystes peuvent appeler un clan concentré autour du PCT. Et dans l'analyse faite par l'autre intervenant, il a bien parlé de ce mouvement démocratique. Nous pouvons dire que cette élection constitue, en fait, un retour en arrière, puisque le pouvoir s'attribue un résultat, 88%, qui est l'antithèse même d'un vote démocratique pluraliste. Donc nous sommes en train de vivre au Congo un retour en arrière, et sans développer les liens idéologiques qu'entretient le régime avec le régime chinois qui se renforce d'année en année, nous pensons à juste titre que le Congo sera peut-être l'un des premiers pays africains à réabolir le pluripartisme et à retourner à un système autocratique, monopartiste, dans une forme de pied de nez à la communauté internationale et de logique de route de la soie idéologique entre l'Afrique et la République populaire de Chine. Donc c'est plutôt un résultat qui nous inquiète et qui annonce des lendemains vraiment sombres pour le pays.
Et comme je l'ai dit tantôt, malheureusement, nous n'avons personne du gouvernement ou du parti au pouvoir pour prendre part à cette émission. Donc, je dois répéter ce que le patron de la commission électorale de votre pays dit. Il dit certifier que les résultats qui ont été proclamés sont l'expression des suffrages réellement exprimés par les électeurs. Donc, je dois malheureusement répéter cela dans un souci d'équilibre, dans un souci d'objectivité. Alors, Denis Sassou Nguesso distance très largement son principal rival, Guy Brice Parfait Kolela, décédé, d'après les informations que nous avons, après avoir contracté la maladie Covid-19. Henri, cette disparition subite va-t-elle avoir un impact important sur l'échiquier politique congolais?
Durant ces dernières années, l'opposition congolaise a eu beaucoup de mal à faire son unité, et une initiative qu'il convient de saluer ici, ça a été bien évidemment cette alliance nouée entre le Rassemblement des démocrates et pour le développement, ainsi que l'Union des démocrates humanistes, donc le parti de Jean-Jacques Serge Yombi et le parti de feu Guy Fabrice Parfait Kolela, un programme de gouvernement dans l'optique évidemment que cette victoire puisse effectivement donner lieu ou en tout cas susciter un nouvel espoir au sein de la population congolaise. Il n'en a rien été. Il convient néanmoins de noter qu'il va y avoir vraisemblablement une recomposition politique. Peut-être que cela prendra la forme d'une plateforme politique beaucoup plus large qui rassemble à la fois les partisans, les héritiers de Guy Fabrice Parfait Kolela et bien évidemment le Rassemblement des démocrates pour le développement. Pour le reste, évidemment, vous le savez, la politique en Afrique est très aléatoire et bien malin pourrait dire ici comment les choses pourraient se passer dans 5 ans.
Hervé Niabe, sa mort laisse-t-elle l'opposition encore plus affaiblie?
Bon, oui, absolument. Le problème avec le Congo, donc pour moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre des résultats, parce que les résultats, nous les connaissons. On vient d'entendre qu'il y a eu 80% des voix. Quand dans un pays, on n'a pas fait de révision de la carte électorale avant d'aller aux élections, quand dans un pays, on n'a pas élaboré le fichier électoral, quand dans un pays, on n'a pas établi l'édition des cartes électorales et la commission indépendante électorale, la soi-disant commission indépendante, n'est pas indépendante, quand dans un pays, un monsieur a le pouvoir.
C'est vrai que les opposants accusent.
Il a le pouvoir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, Jacques.
Oui,
sur ce point.
Quand on a le pouvoir. Le temps est limité. Parlez-moi de Kolela. Sa disparition va-t-elle affaiblir l'opposition, d'après vous?
Absolument. Parce que de toutes les façons, Kolela, ça va affaiblir l'opposition simplement parce qu'on a enlevé l'un des acteurs qui a eu justement une base politique importante qu'on a éliminée. Mais je pense que si on parle d'opposition...
Ce sont vos accusations, qu'on a éliminé les informations dont nous disposons, c'est qu'il a contracté la maladie Covid-19 et il est décédé des suites de la maladie Covid-19.
Attendons justement
les résultats de l'autopsie. Alors, pour ses sympathisants, Kolela était le seul vrai rival de Sassou Nguesso. Avec lui, ils espéraient le changement et ils disent que pour le moment, ils n'imaginent pas qui peut le remplacer. Qu'en pensez-vous, Andrea Gombe?
Non, je pense qu'il reste irremplaçable au sens où il avait ce double héritage, d'abord du fait d'être le fils de son père, M. Bernard Bacala Kolela, qui a fait de la prison pour la démocratisation et le pluralisme en République du Congo. Et il était héritier d'une tradition minoritaire au Congo, qui est la tradition des libéraux congolais. Parce que le Congo a été et reste marqué par une gauche et une extrême gauche qui ont toujours dominé le débat idéologique dans le pays. Or, M. Kolela faisait partie de cette tradition des libéraux congolais. En ce sens, il reste irremplaçable. En revanche, dans l'alliance, ce que votre analyste n'a pas mentionné, c'est que c'était une alliance à trois. Il y avait le RDD, il y avait l'UDHUKI et il y avait un jeune mouvement, le mouvement pour la République de M. Gavé, qui était allié et qui avait aussi participé de cette forme d'alliance. C'est une alliance des libéraux et des humanistes. Et je pense que ce vent de cette alliance va continuer à souffler pour continuer à unifier ceux qui pensent la même chose, c'est-à-dire au Congo, dépasser les alliances du simple fait tribal pour repartir dans des alliances programmatiques, des alliances, idéologiques. Et ça, c'était la grande nouveauté de cette élection. Et nous remercions d'où il est aujourd'hui, le président Guy Bioce-Parfait Kolela, pour cette initiative fondamentale.
Je vous propose maintenant deux commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Bavon Mujinga, de la ville de Likasi, en RD Congo. Certains présidents africains ne se soucient jamais de l'avenir et du bien-être de leur peuple. Ils se soucient uniquement du pouvoir et de rien d'autre. C'est vraiment malheureux et une honte pour l'Afrique. Et Edouard Bologo de Bobo Dioulasso, au Burkina Faso. Je n'accuserai jamais ces dirigeants qui s'éternisent au pouvoir en Afrique. J'accuse le peuple qui demeure simple observateur, même quand tout va mal. Nous méritons vraiment cela. Et voilà pour ces deux commentaires. Commentaire Facebook. Chers amis fidèles de la VOA, n'allez nulle part ailleurs. La suite de Washington Forum après cette courte pause. Merci. Andrea Gombe, fondateur du collectif Sassoufi. Il s'agit d'un mouvement congolais anticorruption. Henri Désiré Zouzi, analyste politique, consultant relations internationales. Il nous rejoint de Bruxelles. Et de la capitale américaine, Téléma Hervé Miabe, professeur à Howard University et coordonnateur des assises nationales du Congo-Brazzaville, ici aux États-Unis. Hervé Miabe, justement, je reprends la conversation avec vous. Je le disais un peu plus tôt, l'opposant et candidat malheureux Mathias Zon a indiqué dès lundi dernier qu'il déposerait un recours pour demander l'annulation du premier tour qu'il qualifie de calamiteux. Quels sont les moyens légaux disponibles pour contester les résultats? Que prévoit la loi, brièvement?
Bon, en 2016, Parfait Kolela avait tenté de faire la même chose. Je pense que ça, ce sont des démarches qui n'en valent pas la peine parce que nous savons que nous sommes dans une dictature, M. Sassou Nguesso a le pouvoir exécutif, il a le pouvoir judiciaire, il a le pouvoir législatif. Donc, par conséquent, quand on contrôle tout le pouvoir, on n'a pas une démocratie, il n'y a pas un système de check and balances. Donc, je pense que le recours ne va aller nulle part, pour répondre rapidement à votre question.
Le président Sassou Nguesso affirme que la paix et la jeunesse font partie de ses priorités. Le chômage des jeunes est jugé très préoccupant. Andrea Gombe, comment les jeunes voient-ils la situation évoluer dans leur pays? Sont-ils en quête de changement?
Quand vous dites les jeunes, il faut faire une sociologie de la typologie. Le problème jeune est un problème récurrent depuis l'indépendance du Congo. Mais on peut aujourd'hui faire une typologie. Il y a ce qu'on peut appeler la jeunesse dorée, la jeunesse qui est dans le chemin d'avenir. Elle a tous les moyens, tous les accès. Elle voyage librement, elle circule à travers le monde. Elle achète des appartements à New York. Voilà, c'est normalement le niveau de vie qu'aurait dû avoir l'ensemble des Congolais du fait des richesses du pays. Et vous avez un fossé. Vous avez une petite classe moyenne émergente qu'on pourrait appeler une jeunesse qui essaye de s'arrimer. Donc elle est prête à toutes les compromissions pour rentrer dans le chemin d'avenir. Et enfin, vous avez les laissés pour compte, qui sont la majorité de la population congolaise et qui se nomment parfois eux-mêmes des débrouillards. Ils se débrouillent. Et donc, cette frange de la jeunesse, les débrouillards, n'attendent rien. Au mieux, tout ce qu'ils veulent, c'est ne pas avoir de troubles civils trop violents avec des affrontements armés pour pouvoir essayer de survivre. Et vous avez la frange que j'ai appelée les opportunistes, qui cherchent à rentrer dans le système. Eux, ils ont besoin des opportunités et donc pensent que le système tel qu'il est peut leur servir puisqu'ils vivent de corruption. Et enfin, la jeunesse dorée du régime, elle n'aspire qu'à une chose, à succéder aux pères, c'est-à-dire après les pères, les fils et les filles d'eux. Donc nous sommes dans un processus dynastique qui a déjà commencé. Vous avez des députés de père en fils, ce qui est assez commun souvent dans le monde, mais au Congo, vous avez des ministères de père en fille. Et bientôt, vous aurez des administrations de père en fils, en fille, en petit-fils. Et donc, c'est ça la structure même de la société congolaise. Donc, on peut résumer, et pour être vraiment succinct, la jeunesse n'attend rien, sinon qu'on la laisse faire tranquillement sa vie, et sans attenter à sa vie. Mais malheureusement, tel que le système fonctionne, toute forme d'autonomie de pensée est considéré comme un crime de lèse-majesté. Et donc, la jeunesse n'a pas d'autre choix que de s'exiler quand elle veut réellement assumer ses droits et ses devoirs.
Autre chantier du chef de l'État, d'après ses dernières déclarations, le développement de l'agriculture pour sortir du tout pétrole et de la dépendance aux importations. La République du Congo est effectivement un État pétrolier, mais ses habitants sont étranglés par la crise économique. Henri, comment expliquer une telle situation ?
Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a deux dispositifs qui sont mis en œuvre par les autorités du Congo Brazzaville, justement, pour parvenir à cet objectif de développement. Vous avez d'abord le plan national de développement qui va sur 2018 à 2022, donc il reste encore très peu de temps pour qu'il donne véritablement ses fruits et qui s'articule au fond autour de trois axes. Le premier, c'est évidemment l'amélioration de la gouvernance. Le second s'attarde sur le renforcement du capital humain. Et enfin, le troisième point, la diversification économique pour précisément sortir du tout pétrole et faire en sorte, effectivement, que le pays puisse dégager d'autres marges de manœuvre financières en termes de recettes dans d'autres secteurs d'activité. Puis vous avez le cadre de partenariat avec la Banque mondiale qui va de 2020 à 2024 et qui vient amplifier d'une certaine manière le dispositif initial que je viens d'évoquer et qui s'attache évidemment à pouvoir créer les conditions d'un accès beaucoup plus large aux besoins sociaux de base, la santé, l'éducation, tout en essayant de promouvoir une amélioration du climat des affaires qui pourrait créer les conditions d'une diversification économique.
Et quand on dit que le pays est très endetté, c'est endetté envers la Chine et les traders pétroliers, c'est ça, Henri ?
Alors, évidemment, vous avez une tradition qui n'est pas propre au Congo-Brazzaville, qui consiste à consommer plus que vous ne produisez. Dans ces conditions, vous faites appel à des bailleurs de fonds qui limite au maximum les conditionnalités, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, lorsque vous êtes étranglé, eh bien, vous n'avez d'autre choix que d'accepter des conditions qui peuvent effectivement vous maintenir dans cette dépendance de manière durable. Et effectivement, c'est le principal talon d'Achille du Congo à l'heure actuelle.
Deux autres commentaires Facebook maintenant. Asmaïlou de Lomé au Togo. Aujourd'hui en Afrique, avec les bras de fer pour se maintenir au pouvoir, la jeunesse est obligée d'avaler des pilules très amères. Et Alain Mouvanga de Kigali au Rwanda, c'est la jeunesse congolaise qui est clouée au sol et accepte cette situation. 41% de la population vivent sous le seuil de pauvreté, d'après la Banque mondiale, qui ajoute que l'extrême pauvreté n'a fait qu'augmenter depuis les dernières élections, de temps que les revenus pétroliers ont fortement diminué dans un contexte de chute des cours mondiaux. Hervé Miabé, comment le pays peut-il combattre ce gros problème de pauvreté ?
De même que la santé d'une société civile dépend de la qualité de la santé politique du pays dans lequel elle demeure, le développement d'un pays dépend de la qualité du leadership que nous avons dans ce pays. En réalité, il existe ce que j'appelle un homéomorphisme entre les leaders que nous avons dans un pays et le développement de ce pays. Donc je dis simplement pour dire ceci, que tant que M. Sassou Nguesso sera au pouvoir, tant que son équipe sera au pouvoir, on pourra s'asseoir ici, discuter, le Congo ne va jamais se développer. Parce que, comme vous le savez, de 2000 à 2010, le Congo a eu des excédents budgétaires qui étaient énormes grâce à la croissance des prix du baril du pétrole. Le Congo, en 2008, est rentré dans un programme sans financement avec le Fonds monétaire international afin de devenir éligible au programme PPTU, pays pauvre très endetté. En 2010, le Congo reçoit une suppression de sa dette qui est de 5 milliards de dollars. Donc en 2010 encore, quand vous regardez le Congo, vous voyez par exemple en 2008, le Congo fait des excédents budgétaires de près de 23% de son produit intérieur brut. Donc, le Congo a eu des milliards et des milliards de dollars qui sont rentrés dans les caisses d'État et il n'y a pas eu de développement. Manque de diversification de l'économie, il y a eu des surfacturations qui ont été faites, c'est la gabégie, parce que ce sont les valeurs que M. Sassou Nguesso a mises en place, ce sont les valeurs, le clientélisme, le chronisme, le tribalisme, la gabégie financière. Le Congo se base sur ça. Et tant que ces personnes sont en place, le Congo ne va jamais se développer. Parce que je dis simplement que, comme disait ce philosophe français François Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je dirais simplement que gouverner sans conscience ruine l'État. L'État congolais est ruiné aujourd'hui parce que nous avons devant nous des hommes et des femmes, en commençant par M. Sassou Nguesso lui-même, qui gouverne le Congo dans un état de conscience primitive. Et à l'état de conscience primitive, on ne peut pas penser aux souffrances du peuple. On ne peut pas travailler pour le peuple et c'est ça le vrai problème du Congo. Ce n'est pas le programme économique, ce n'est pas des différentes techniques, c'est un problème de leadership. Et regardez le leadership au Rwanda, le président du Rwanda a vendu un leadership, celui du rêve de faire son pays un pays émergent. Au Congo, quel est le rêve de Sassou Nguesso ? À quoi pense-t-il ? Pense-t-il à son peuple ? Ce n'est pas le cas. Et tant que ça sera pareil, on pourra faire tous les discours qu'on veut, la situation ne changera jamais.
Andrea Gombe, la lutte contre la corruption doit-elle également faire partie des priorités ? La corruption devenue endémique au Congo-Brazza d'après des ONG. Brièvement, si vous pouvez.
Oui, brièvement. C'était dans le programme avec le FMI. Il y a eu une commission et une haute autorité qui a été créée, mais malheureusement, dans la loi qui a été votée, cette haute autorité est inféodée au pouvoir exécutif et elle a interdiction de divulgation du contenu de ces enquêtes sur la corruption. Donc si vous enlevez le facteur name and shaming d'une enquête de corruption, vous comprenez très bien qu'on va essayer d'accommoder le corrompu et qu'à la fin, il n'y aura peu ou pas de sanctions. Mais ce que je voudrais juste ajouter brièvement, c'est nous disons don't act. Il a voulu le pouvoir, il veut le pouvoir, il se maintient au pouvoir, il a vocation et il veut s'organiser pour mourir au pouvoir. Nous lui disons bonne chance dans un esprit purement républicain, bonne chance, bon courage, mais malheureusement la dette les rattrape déjà. Commis Simpex vient de saisir les comptes de la SNPC et pourra à tout moment racler les fonds des tiroirs de recettes pétrolières qui reviennent à l'État congolais. Il est grand temps pour les Congolais de s'asseoir, mais La balle est dans le camp de M. Sassou Nguesso tout seul, face à sa conscience et face à l'histoire.
Et voilà, c'est ici que nous allons clore ce Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care, prenez bien soin de vous.